Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment se rencontrer et s'aimer en ville? Loin du village ou des villes moyennes, loin des bavardages, les grandes villes sont en théorie les lieux de tous les possibles. Il suffit d'une appli pour faire défiler un choix infini sur quelques kilomètres carrés. De quoi rêver? Mais ensuite, est-ce qu'on peut trouver l'amour sous les pavés si facilement? Dans les rues poussiéreuses, les transports bondés, le boulot aussi qui occupe beaucoup de temps, mais aussi les bars, les acquis jusqu'à point d'heure. Du coup de foudre à la rupture, les métropoles sont-elles une promesse d'aventure ou plutôt de solitude? Est-ce qu'on s'aime de la même façon aussi à Barcelone, à Londres, à Paris, à Zurich, à Kinshasa, à Dakar? C'est à vous, bien sûr, de nous répondre, les voisins et les voisines. Appelez-nous, surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, pour nous raconter vos histoires d'amour dans votre ville et vos galères éventuellement, pourquoi pas. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. C'est notre compte WhatsApp. Tiens, je vous lis le message de Lewis à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. Il recherche une partenaire et nous a posté ce message. « Moi, je drague quand je fais les courses ou sur le chemin du travail, mais les filles n'ont pas toujours confiance. Si j'obtiens leur numéro de téléphone, je tente de nouer une relation. » Et au fait, n'oubliez pas d'ailleurs de répondre à notre sondage en ligne sur le compte 8 milliards d'Instagram. « Aimer en ville », vous avez 4 réponses au choix. On aimerait bien avoir votre point de vue. Nous serons en ligne avec Gwendolina Duval, correspondante de RFI à Mexico, où les couples d'un jour ou pour toujours adorent s'afficher en ville, une ville quand même de plus de 23 millions d'habitants, donc a priori, il y a du choix. Pauline Machado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous publiez Foule Sentimentale, comment la ville impacte l'amour, aux éditions Les Pérégrines. Foule Sentimentale, c'est le titre d'une très célèbre chanson d'Alain Souchon. Vous n'êtes pas tout à fait de la même génération, ceci dit. Hein.
Non. Mais vous bon, avez... quand même très inspirant.
Ouais. Vous avez 33 ans.
Tout à fait.
Et vous vivez entre justement la capitale, Paris, et une petite ville sur la côte normande où tout le monde se connaît, donc a priori, pas grand-chose question rencontre.
Un peu moins en tout cas, on va dire.
Je vois le petit sourire en coin. Bon, on vous en demandera pas plus sur votre vie privée. En fin d'émission, en tout cas, un autre sujet. L'Afrique qui gagne de Mohamed Thiam, alias Dex Junior, 20 ans, champion d'Afrique de e-foot. Charlie Dupio l'a rencontré. Je vous rappelle notre numéro de téléphone pour nous contacter sur l'amour en ville et ses particularismes. 33 7 64 45 51 41. Allez, appelez-nous.
Écoute pas les termes d'aujourd'hui. Ce que j'ai dit là, c'est important que je...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Pauline Machado, la moitié de la population mondiale vit désormais en ville. Alors, est-ce que ce mode de vie change fondamentalement les histoires d'amour et de couple, finalement ?
Oui, alors c'est moi, ce qui m'a intéressée, c'est plus les comportements amoureux que les émotions en elles-mêmes, parce que vous posiez tout à l'heure la question, est-ce qu'on s'aime pareil à Zurich, Kinshasa, Paris ? Je pense que les sentiments sont les mêmes.
Les vibrations.
Et tout à fait. On va avoir les mêmes sensations pour quelqu'un qui nous plaît, avec qui on veut construire quelque chose, les mêmes déceptions. Voilà.
Un crush est un crush.
Tout à fait, un crush est un crush. Après, dans nos comportements amoureux, c'est là où tout change, je trouve, et notamment ce qui est assez évident, assez flagrant, c'est dans la façon de faire des rencontres et dans la façon dont on va, quand c'est ce qu'on souhaite en tout cas, avoir du mal à peut-être... nouer une connexion un peu plus profonde que sur quelques rendez-vous, sur quelques échanges sur les applis, quoi.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que déjà, vous avez, on va dire, ramassé pas mal de statistiques. Les métropoles accueillent une plus grande proportion de célibataires. On y divorce en général légèrement plus, dans très nombreuses grandes villes du monde. Il y a plus de rencontres d'un soir aussi, du fait de l'anonymat. Moins de choix pour les femmes, parce que vous êtes revenu sur des chiffres assez basiques, en fait.
Oui, à Paris, en tout cas, pour les femmes, il y a beaucoup plus de femmes, ou en tout cas à peu près 113 femmes pour 100 hommes. Ouais. Donc, c'est quand même une enfin voilà, on part un petit peu plus perdante, on va dire, puisque moins de possibilités. Et puis il y a aussi plein de rapports.
Dans les hommes, après, il y a ceux qui se déclarent homosexuels.
Tout à fait, exactement.
Qui sont plus nombreux que les femmes à se déclarer homosexuelles.
Exactement. Donc du coup là, quand on fait purement pour les femmes.
Donc
hétéros,
il reste encore moins.
Ouais. Il y a encore moins d'hommes hétéros pour les femmes hétéros.
Vous avez aussi interrogé des urbains très différents, avec des parcours sentimentaux, des parcours sociaux très différents.
Oui. Déjà, je me suis, j'ai pris Paris comme exemple pour plusieurs raisons. Déjà, je me suis limitée un peu aux capitales. Je parle de grandes villes, mais la vraie appellation, ça va être métropole ou capitale, parce que c'est là où il y a une certaine densité de population, une surface assez importante et beaucoup de comportements qui sont inhérents du coup aux très grandes villes. Et après, j'ai pris Paris parce que c'est une capitale et aussi pour d'autres spécificités qui lui sont propres, comme le romantisme qu'on lui accole. Mais au-delà de ça, dans ce que j'ai observé dans ces très très grandes villes, il y a des facteurs qui sont présents partout, comme l'anonymat, comme le fait qu'on utilise beaucoup les applications de rencontres, la rapidité de ville, le temps dans les transports. Et du coup, je me suis aussi penchée surtout, enfin principalement sur des grandes villes occidentales, mais je suis sortie de la France avec, on va dire, avec Berlin, avec Londres, où j'ai aussi vécu, et quelques exemples à Zurich également.
Mais beaucoup vous ont dit, dans le fond, que la ville ne tenait pas ses promesses avec son choix infini, en théorie.
Ouais, c'est vraiment le gros retour que j'ai. Déjà, pour revenir sur ce terme de promesse qui est super intéressant, c'est que à la base, la ville va incarner une promesse quand on vient d'ailleurs. Moi, je viens pas de la ville, j'ai grandi en Haute-Savoie, donc je me suis aussi penchée sur ce sujet avec mon regard de provincial, va-t-on dire,
ouais.
Qui ne considère pas que Paris est la norme.
Et du coup, quand vous êtes à Paris, d'ailleurs, vous vouliez absolument vivre à Paris.
Oui, exactement.
Et pas en banlieue.
Exactement, voilà, tout à fait. J'ai cette espèce d'idée de que je retrouve aussi chez d'autres personnes qui viennent de province ou qui sont parisiens natifs, qui vont avoir un peu, surtout les provinciaux, on veut quitter Paris pour la province, mais...
Et vous imaginiez quoi des rencontres à Paris vous étiez inspirée par ce que vous voyez dans les films, dans les séries?
Oui, voilà, c'est ça qui, du coup, pour revenir sur cette promesse, c'est ça qui façonne un peu cette promesse. Donc, il y a la densité de population qui fait qu'on se dit qu'il y aura plus de place aux rencontres, en tout cas, plus de rencontres potentielles. Et après, dans les films, les séries qui se passent généralement en ville, les comédies romantiques surtout, pour ce qui traite de l'amour, du coup, ça incarne cette espèce de promesse d'une terre propice aux rencontres. Quelque chose qui se rapporte, du coup, c'est le parallèle que je fais avec. Qui se rapproche des châteaux, des contes de fées.
Beaucoup de femmes estiment qu'elles ont été programmées pour placer l'amour comme un objectif de vie. C'est ce qu'elles vous racontent, en tout cas dans les témoignages, alors que les hommes sont beaucoup plus axés sur leur réussite professionnelle et leur place sociale. Et du coup, quand on vit en ville, ça crée un décalage dans la rencontre et dans la façon de construire son histoire sentimentale.
Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, à la fois en interrogeant des femmes et des hommes qui... elles vont tout de suite, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, associer le fait de ne pas avoir de partenaire, ou en tout cas de ne pas réussir à rencontrer quelqu'un à leur valeur personnelle.
Ouais, vous avez mis des guillemets avec vos doigts. Là.
Oui, parce que c'est la réussite de faire couple, c'est quand même tout un... Enfin voilà, c'est toute une pression, je trouve, qui est souvent mise sur les épaules des femmes. Mais en tout cas, les hommes hétéros que j'ai interrogés sur ce sujet-là n'avaient pas vraiment... expérience d'associer leur célibat à une valeur personnelle. Et du coup, cette quête-là en ville va être un petit peu exacerbée, puisqu'il y a plus de rencontres et plus de déceptions potentielles. Et les psychologues que j'ai interrogés m'ont fait part de ça aussi.
D'une quête, ouais. Ça peut être un boulot à temps plein, hein, de faire des rencontres dans une grande ville. On va évidemment parler des applis de rencontres, parce que ça, c'est vraiment ce qui distingue l'amour des grandes villes avec l'amour dans une toute petite ville ou un village. Les minorités sexuelles aussi, l'anonymat, les villes et leurs banlieues, mais aussi, comme vous le disiez, le boulot omniprésent. Et donc, la place dans la société, la place place sociale et la place de l'argent aussi, qui se croisent avec les histoires d'amour. Pauline Machado, vous restez avec nous. On va retrouver les foules sentimentales des grandes villes. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous n'oubliez pas de répondre à notre sondage en ligne sur le compte 8 milliards d'Instagram. Aimez en ville, 4 réponses au choix. Mais surtout, appelez-nous pour nous raconter vos histoires d'amour en ville sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Which kind of life where I never see? I carry God, so I fear nothing. Steady increase in the commas, comma, comma, comma. Original no be parody. You know it's clear for your memory. Whether now winter or summer, I did Papa just travel now. Living life, see my fire burning bright within the inside me. Smally way day, my tea, they never know I color. Inside my mind daily, trust me, you can't fool me. And then you don't got logo, but I'm friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love, stability on gonna. Everything a connection, I'm not ready for confusion. Things happen inside life, try that to make I live my.
Erastar, sélection de la playlist RFI avec Comas. Vous écoutez 8 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Et aujourd'hui, sous les pavés l'amour, comment s'aimer quand on habite en ville? La question peut sembler tellement banale et pourtant, quand on galère de rencontre en rencontre décevante, eh bien on finit par se demander si c'était la ville le problème, avec son choix infini, mais ses solitudes aussi. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On est avec Pauline Machado. Vous publiez Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour. Vous nous disiez d'ailleurs en début d'émission qu'il y a vraiment une façon de se rencontrer, d'avoir des relations avec, avec l'autre, hein, dans les histoires sentimentales qui sont propres à la ville, bien sûr les applis de rencontre, l'anonymat. Et finalement, là, quand on parle de ville toutes les deux, Pauline Machado, on parle de la ville. On ne va pas donner de taille précise, mais c'est celle où on ne risque pas de rencontrer le type qu'on a rencontré la veille à l'épicerie du coin. Grosso modo, c'est ça, quoi.
C'est exactement ça, voilà. C'est des villes très anonymes, quoi, où les endroits ne sont pas forcément des QG, où on sait qu'il faut tisser des liens au-delà de la simple chance de retomber sur la personne avec ses amis le lendemain ou au bar du coin.
Et dans le bus, on n'est forcément qu'avec des inconnus. Vous nous appelez au 33 7 64 40 55 51 41. On donne la parole à Nick qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Nick.
Bonjour. Bonjour.
Oh bonjour, très sérieux Nick. Et pourtant, vous avez dit à Delphine au standard que vous avez beaucoup de plein de relations, mais bien que sûr. Vous cherchez de la stabilité et que c'est pas évident à Brazzaville. Pourquoi donc ?
Alors, c'est pas évident à Brazzaville parce qu'aujourd'hui, les femmes sur Brazzaville sont simplement scotchées sur les relations virtuelles. Et ouais. La plupart des femmes recherchent des hommes à l'étranger. Et pour nous qui sommes localement, c'est pas facile pour nous pour avoir des relations parce que certaines femmes se disent elles sont pas encore prêtes pour avoir des relations sérieuses avec des hommes. Et c'est un peu galereux pour nous pour avoir des bonnes relations ici. Mmh. Voilà pourquoi on préfère se déporter vers nos villages locaux. Mmh.
Mais alors, ah oui, le village local, parce que vous ne trouvez pas finalement une femme qui vous convienne à Brazzaville, enfin qui soit disponible, si elles sont tout le temps rivées sur leurs écrans. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent sur leurs écrans, dans le fond, ces femmes à Brazzaville?
Alors, les femmes sur leurs écrans, elles cherchent, comme j'ai dit tantôt, des relations virtuelles. Aujourd'hui, il y a des femmes... avec l'afflux des réseaux sociaux, profitent des relations à distance avec ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont voilà en Europe. Et aujourd'hui, pour nous, c'est très difficile d'avoir des relations sérieuses parce que je vais donner mon témoignage. J'ai eu des relations où j'étais en couple avec la dame. La dame avait des relations à l'étranger, la dame avait des relations virtuelles et moi, ça me dérangeait. Voilà pourquoi j'ai préféré rentrer.
Vous aviez l'impression que, parce que vous avez 30 ans, hein, Nick, c'est ça?
Oui, 30 ans.
Vous avez l'impression qu'elle était avec vous en attendant de trouver mieux?
Bien sûr, bien sûr. J'étais comme un bouc émissaire.
Donc, aujourd'hui, vous orientez vos choix vers le village familial?
Bien sûr, vers le village familial pour chercher une femme qui aura mes valeurs.
D'accord. Bon, eh ben, écoutez, c'est votre choix. Merci, Nick, en tout cas, d'avoir partagé avec nous vos désillusions hein, sur toutes les femmes qu'on pourrait, a priori, rencontrer à Brazzaville, mais pas si simple. Sénabou est en ligne avec nous de Dakar. Bonjour, Sénabou.
Bonjour, Emmanuel.
Et vous partagez le point de vue de Nick. Pour vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes, comme les femmes que décrit Nick, tout le temps rivées sur votre écran à chercher un homme assez loin, etc. Ou est-ce qu'à Dakar, finalement, il y a plein de rencontres possibles pour vous en tant que femme? Vous avez 34 ans.
Bon, au niveau de Dakar, bon, je ne vais pas parler pour tout le monde quand même.
Non, bien
mais
sûr.
Mais je pense quand même qu'il y a des possibilités de rencontre, mais c'est surtout avec les sorties. Et beaucoup de filles aussi me parlent des relations professionnelles, c'est-à-dire des connaissances qu'on fait avec le cercle ou bien le réseau professionnel.
Et pour vous alors, Sénabou?
Bon, pour moi, c'était l'inverse. C'était plus par appli.
Oui.
Et appli de rencontre.
Ouais. Lesquelles, par exemple?
Parce que j'étais pas... Bon, je connais un seul, c'était Tinder.
Ouais, bah.
Et après, j'ai voulu quitter.
Ouais, leader mondial j'ai voulu ou pas quitter parce que... Pauline, c'est le leader mondial, Tinder, des applis de rencontre à l'heure actuelle
Oui, je hein? pense. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
Et donc, avec Tinder, alors, à Dakar
Oui, bon, avec Tinder, je m'étais connectée avec mon mari. Mais on a pris la décision de quitter quelques jours après parce que c'était assez, disons, désorganisé. Il y avait des demandes bizarres. Mmh. Et on a jugé que le réseau était un peu trop, disons, pas à notre goût. Mmh. C'est là qu'on s'est dit qu'on allait quand même quitter la clip et qu'on allait garder de bons liens. Après, de fil en aiguille, finalement, on a été mariés. Mais pour tout vous dire, on a eu une mauvaise expérience.
C'est-à-dire?
En fait, on avait plus de demandes, disons, de coups d'un soir, honnêtement.
Mais vous avez rencontré votre mari sur Tinder, si j'ai bien compris, Sénabou.
Oui, c'est ça. On avait fait des profils, disons, classiques, parce qu'on voulait faire des rencontres.
Mais vous dites qu'on a eu une mauvaise expérience. Vous êtes toujours mariée ou pas?
Oui, on est toujours mariés, d'accord. Mais en fait, je parlais des expériences personnelles
d'accord.
par rapport à nous et le réseau. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Par exemple, moi, j'avais plus de demandes de cours d'un soir. C'était même à la limite là, un peu...
Oui, d'accord. Donc, mais le mari, bon. L'homme que vous avez rencontré qui est devenu votre mari, il habitait Dakar aussi, Sénabou?
Oui, il habitait Dakar aussi.
Et vous auriez pu le rencontrer ailleurs, dans un maquis, dans un bus, à la bibliothèque de l'université, je ne sais pas, Sénabou ou pas?
Je ne pense pas, parce qu'on ne vivait pas, on était assez loin.
Ah oui.
Et on est très casaniers, lui et moi, donc on ne sort jamais.
Ah oui, d'accord. Donc quand même,
donc,
merci Tinder.
Bien.
D'accord.
Oui.
Bon, cette émission n'est pas une publicité pour Tinder, mais quand même, quand on écoute votre histoire, effectivement, la probabilité que vous vous rencontriez était assez mince s'il n'y avait pas eu une appli sur votre smartphone. Merci à vous, Senabou, de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Ibrahima est en ligne avec nous également de Dakar. Ibrahima, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 41 ans. Vous êtes guinéen, hein, c'est ça ?
Non, d'origine guinéenne. Et moi, je suis né au Sénégal, en fait.
Ah, pardon, d'accord. Mais alors, vous avez grandi où ? Au village ou à Dakar ?
J'ai grandi à Abidjan.
Ah, d'accord. Ok, mais vous nous disiez, je suis né au Sénégal. Et après, vous êtes parti vivre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que vous avez quand même beaucoup vécu dans des grandes villes ?
Ben oui.
Ouais, mais comment vous vous situez ? Parce que vous avez dit au standard que vous aviez deux divorces derrière vous et que finalement, aujourd'hui, vous trouvez que c'est difficile de fréquenter des filles au village. Mais vous avez toujours été dans des grandes villes, j'ai l'impression, Ibrahima.
Oui, le village, je perds là-bas juste pour les vacances, en fait.
Ah oui, d'accord. Ouais. Et alors, c'est pas des vacances avec des rencontres au village ?
Ben si, vous savez, quand tu arrives au village, il y a tout, il y a presque plein de monde qui vient aussi, donc tu te fais des connaissances, tu vois.
Ah oui, il y a les autres urbains qui viennent passer les vacances au village.
Effectivement. Voilà.
C'est ça. Donc, du coup, il y a du brassage.
Un peu de ça, oui.
C'est ça. Et alors, quel est votre point de vue aujourd'hui ? Est-ce que ce soit Abidjan, Dakar, les grandes villes, c'est le paradis pour faire des rencontres ?
Ben oui, franchement, ouais. Jusqu'à Dubaï, tu vois, il y a tout ça. Au Maroc, j'ai été, au Mali. Oui, je suis à 9 pays déjà, en fait.
Ah d'accord, où vous avez vécu ?
Ben, pas vécu en tant que tel, mais disons, minimum un mois, quoi. Là où je pars, je fais minimum un mois.
Ouais. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ville où vous trouvez que c'est le paradis pour faire des rencontres et avoir des histoires sentimentales, Ibrahima ?
Pour moi, non.
Aucune ville ?
Mais pour moi, c'est la même chose, en fait.
Ah, partout, c'est pareil. De Dubaï à Bamako, c'est la même chose.
La même chose. Partout où je pars, c'est très facile pour moi de croiser une fille. Et voilà.
Et pourquoi ?
Mais je sais pas, c'est naturel chez moi.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette capacité à faire des rencontres très facilement ?
Très facilement.
D'accord, avec deux divorces derrière vous quand même. Hein ?
Ouais.
Et alors aujourd'hui ?
Ben, jusqu'à présent, je ne trouve pas l'âme sœur, donc raison pour laquelle j'ai voulu participer à l'émission pour essayer d'avoir un peu d'idées, voilà.
D'accord.
Partager toute la douleur que j'ai, voilà.
Ah oui, ben, Pauline Machado, voilà un auditeur, la ville ne lui a pas porté chance. Hein. 9 villes dans lesquelles il a vécu.
Ah bah oui, bah c'est ça un peu qui est vertigineux avec la ville, c'est qu'on peut faire plein de rencontres et en même temps, c'est parfois difficile de créer un vrai lien. Donc,
parce qu'on se dit qu'on va toujours trouver mieux plus tard, ailleurs.
Je pense qu'il y a ça et que le fait qu'on soit dans la possibilité de rencontrer beaucoup de monde fait qu'on va pas prendre le temps de vraiment apprendre à connaître la personne. Effectivement, pour cette idée qu'on pourra trouver mieux plus tard et aussi parce que ça résonne avec un culte de la rapidité qui est typiquement urbain. Mais c'était super intéressant d'avoir ces témoignages d'ailleurs parce que ça illustre bien l'ambivalence des applis de rencontre.
Ouais. Et Ibrahima, en tout cas, merci de nous avoir appelé. Est-ce que vous avez répondu à notre sondage sur Instagram sur l'amour en ville ?
Non, pas du tout.
Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on va donner bientôt le résultat. Il y a 4 choix possibles.
Voilà. Oui, d'accord.
Merci à vous.
Je peux poser une question ?
Ah oui, mais bien sûr, Ibrahima, allez-y.
D'accord. Vous pensez de... Comment est-ce que je vais poser la question ? Est-ce que ça fait mal de côtoyer une fille en une seule soirée et que tu ressens rien, en fait ? Qu'est-ce que, pour moi, comment est-ce que je vais poser la question, en fait ? J'y arrive pas. Côtoyer une fille d'un soir et ne plus vouloir la revoir et elle insiste pour te revoir.
Ah oui, ben ça c'est ce qu'on a. Ouais. Et alors là, comment vous faites quand vous l'avez rencontrée sur une appli ? C'est-à-dire qu'après, vous disparaissez, vous ne répondez plus ?
Non, moi, je déteste les sites d'entrante.
Vous détestez quoi ?
Les sites de rencontre, je les déteste, en fait.
Ah, vous n'allez pas sur les sites de rencontre. Ah oui,
non,
c'est
j'ai
ça.
J'ai eu une mauvaise expérience à 2 reprises.
D'accord.
Donc, du coup, depuis lors, je fréquente plus.
Bon, alors, Pauline Machado, il se demande, Ibrahima, si c'est normal de voir une fille un soir et de ne rien ressentir.
Oui, ça arrive, on n'est pas obligé de ressentir quelque chose pour une personne qu'on rencontre une seule fois. Après, soit on décide de plus la revoir et dans ce cas-là, mieux vaut peut-être la prévenir, soit on se dit que peut-être que la deuxième fois, on ressentira quelque chose. Donc, c'est à vous de voir, mais prévenez quand même, Ibrahima.
Oui, Pauline, là, elle est pour la cause des femmes, hein, Ibrahima. Merci à vous de nous avoir appelés, en tout cas. Très belle journée à vous à Dakar. Et puis, évidemment, on vous souhaite de faire enfin la rencontre de votre vie, Ibrahima.
Je l'espère, franchement.
On est avec vous. Vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, on vous donnera d'ailleurs les réponses du sondage. Et puis, on a d'autres auditeurs qui arrivent.
8 milliards de voisins.
Une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
On va écouter le témoignage qui a été posté par Carlos qui habite Lomé au Togo.
Bonjour les voisins et les voisines. Faire des rencontres ici au Togo est plutôt facile. Que ce soit au coin de la rue, dans les bars, les supérettes, les choix sont divers. En revanche, avoir une relation sérieuse est beaucoup plus difficile, puisque les femmes préfèrent avoir plusieurs mecs pour avoir plusieurs sources de revenus pour ainsi suivre la tendance de la ville. Elles préfèrent avoir des relations strictement basées sur le sexe. Cette tendance empêche plusieurs personnes désireuses d'avoir une relation sexuelle de pouvoir s'engager et donc sont obligées de suivre le mouvement. Bonne émission à vous.
C'est intéressant, Carlos, qui nous dit ça, Pauline Machado. L'argent pour suivre la tendance de la ville. Et vous, vous avez quand même beaucoup découvert dans votre enquête que l'argent en ville, c'est très imbriqué dans les rencontres amoureuses.
Dans les rencontres, ou en tout cas dans le couple et dans notre décision d'engagement et de désengagement, ça impacte beaucoup la vie de couple de manière générale dans les villes où tout coûte très cher et plus qu'ailleurs.
Ouais. Y a un jeune cadre dépité de sa vie à Zurich, en Suisse. Hein. Bon, Zurich, c'est une ville de business, hein. C'est pas une très grosse ville, mais qui vous dit, en parlant des filles sur les applis, c'est pas un mec qu'elle cherche, c'est un CEO, c'est-à-dire un manager qui réussit, qui gagne beaucoup d'argent.
Ouais, exactement. C'était vraiment ce témoignage-là est super intéressant parce que il y avait vraiment cette idée capture d'écran à la pluie qu'on faisait sur l'application de rencontre. On émettait des critères de recherche comme si on cherchait un CEO, un PDG, exactement. Et donc, dans cette idée de rationaliser beaucoup l'amour, de correspondre à un fichier type. C'était assez parlant, quoi.
Les algorithmes aussi des applications créent des choses bizarres parfois aussi sur les profils qui vous arrivent, non ?
C'est tout ce que la journaliste Judith Duportail disait aussi, c'est qu'on va être un peu classé en fonction de notre note de désirabilité et du coup on va pas être présenté les mêmes profils que sa voisine.
Ouais. On accueille Cassie qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Cassie.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous avez appelé parce que il vous est arrivé une aventure assez amusante avec les réseaux sociaux et les rencontres.
Oui, j'ai rencontré mon amoureux sur les réseaux sociaux. Et ce qui a été un peu loufoque, c'est que j'ai créé un faux compte sur lequel j'avais mis une photo sexy.
Mais une photo
et
de vous
là,
ou pas ?
Là, j'ai eu plein de demandes d'ajout d'amis. J'avais mon compte, mais c'est pas pour autant que je correspondais avec beaucoup d'hommes. Alors là, ça a été l'explosion. Je n'arrivais plus à gérer toutes les demandes qu'on m'envoyait.
Mais la photo que vous avez mise sur votre faux compte, Cassie, c'était pas une photo de vous, si j'ai bien compris.
Non, ce n'était pas une photo de moi. C'était, je pense, un mannequin. J'ai voilé le visage.
D'accord.
Mais du moins, on voyait le corps. Elle avait un corps très plantureux et elle était habillée de façon sexy.
D'accord. Donc, vous êtes assaillie de demandes.
Oui, en tout cas, des centaines.
Et ensuite ?
Et ensuite, parmi toutes ces demandes, il y a un monsieur qui va se faire démarquer parce qu'il avait une belle plume.
C'est-à-dire
énormément touchée.
Qu'est-ce qu'il vous disait ?
Il écrivait très bien. Il écrivait très bien déjà sans faute, mais aussi avec une certaine poésie. Il n'était pas vulgaire, très respectueux, et ça, ça m'a énormément enchantée.
Ouais. Et donc?
Parce que déjà moi de nature, j'avais du mal à faire des rencontres parce que en fait, j'en faisais des rencontres, mais j'accrochais pas parce que je trouvais que ces hommes-là étaient très terre à terre. Mm. Donc avec lui, on a commencé à discuter et très rapidement, je lui ai dit que c'était pas moi sur la photo. Je lui ai envoyé ma vraie photo. Il n'était pas déçu parce que je me disais qu'il allait, peut-être être surprenant, une relation qui va commencer sur un mensonge. Mais on s'est rapidement vu et voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on s'est plus quitté.
Voilà, et il habitait à Pointe-Noire également. Cassie, merci pour votre histoire. C'est ça, créer un faux compte avec une fausse photo, ça permet d'être assailli, de faire un énorme tri parmi tous ceux qui sont tombés dans le panneau avec des messages assez vulgaires. Merci à vous, Cassie. Dans quelques instants, on va faire une étape à Mexico pour savoir comment on s'aime dans cette ville de 23 millions d'habitants. Et vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Direction maintenant Mexico, 23 millions d'habitants, je le disais, baignés dans une culture très latine, où l'on parle de moitié d'orange quand on parle de son âme sœur. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre correspondante au Mexique, alors l'amour à Mexico sous le soleil est au détour des coins de rue.
Alors oui, le Mexique est définitivement un pays d'amoureux. Ça se ressent hein, à Mexico, c'est frappant quand on découvre la ville. Les Mexicains sont très démonstratifs. Les couples n'ont aucune pudeur à s'embrasser ou se câliner dans les rues. Quel que soit leur âge, les Mexicains adorent le couple. Plus de la moitié est en couple, hein, selon les statistiques nationales. Et très majoritairement, à plus de 90%, ils se déclarent heureux dans cette situation. Dans les sondages, la plupart des Mexicains déclarent que leur partenaire est l'amour de leur vie. Et vous le voyez bien, c'est le côté romantique. Au Mexique, il y a moins de divorces qu'ailleurs, 33% habitants en 2022. Malgré tout, le nombre de mariages diminue et le nombre de séparations augmente, surtout dans les villes. Mexico est vu comme la ville des célibataires. Ils sont environ 4 personnes sur 10. C'est d'ailleurs l'État mexicain où les personnes seules sont les plus nombreuses et où il y a le moins de couples mariés.
On peut dire qu'à Mexico, Gwendolina, les gens croient moins en l'amour ou qu'il est plus difficile de faire des rencontres?
Alors, en dehors de la capitale, les gens ont tendance à s'engager plus tôt. Hein. Au bout de quelques rendez-vous, ils forment un couple et se marient plus vite. Il peut y avoir aussi une forte présence de l'Église. Certains États, notamment au Nord, sont aussi beaucoup plus conservateurs. Hein. Et à côté, Mexico est plus progressiste. Il y a une plus grande liberté de mœurs. Également, l'accès aux soins est facilité par rapport à d'autres endroits dans le pays. L'accès à la contraception et à l'avortement, ça permet évidemment un autre rapport à la sexualité. Donc, à Mexico, l'amour peut s'exprimer différemment, sans qu'il soit tout de suite synonyme d'engagement. Et puis, la liberté qu'offre Mexico est un atout aussi pour la communauté LGBTQ+, qui peut davantage s'exprimer. Il y a des lieux, des bars, des clubs. Et évidemment, tout ça, ça facilite les rencontres.
Et justement, comment en général se rencontrent les Mexicains à Mexico?
Eh bien, figurez-vous qu'au Mexique, on continue de se rencontrer encore beaucoup en vrai. Selon une étude d'une entreprise d'analyse des marchés des rencontres, un quart des personnes en couple ont rencontré leur partenaire grâce à des proches, parce que il ou elle lui a été présenté par des amis ou de la famille. Un autre quart connaît sa moitié depuis l'école, et environ 20% se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Après cela, il y a tout de même 15% des personnes consultées qui ont connu leur partenaire actuel via une plateforme digitale. Oui, comme beaucoup ailleurs, il y a une proportion croissante des rencontres en ligne, surtout chez les jeunes et dans les grandes villes. Au Mexique, on compte 5,6 millions de profils sur les applications de rencontres en 2024, principalement Tinder et Bumble. D'ailleurs, cette dernière a plu très rapidement au Mexique grâce à une de ses spécificités. En fait, ce sont les femmes qui mènent un peu plus la danse, car ce sont elles qui doivent faire le premier pas en envoyant un message. C'est un succès qu'on peut expliquer aussi par la vulnérabilité des femmes au Mexique, hein, puisque nous sommes tout de même dans un pays très majoritairement machiste, où il existe beaucoup de violence contre les femmes. Pour rappel, au Mexique, c'est un chiffre qui peut paraître effrayant, mais il y a plus de 10 féminicides par jour.
Plus de 10 féminicides par jour au Mexique. Hein. Oui, la conclusion, effectivement, est moins drôle que l'ensemble du papier de Gwendolina Duval. Je précise que féminicide, c'est un meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes. Hein. Merci en tout cas à vous, Gwendolina Duval, correspondante pour RFI au Mexique. Pauline Machado, vous publiez « Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour ». Gwendolina Duval nous parlait des minorités sexuelles en ville. C'est le lieu du coming out possible, de vivre ses préférences sexuelles plus librement.
Alors c'est l'idée qu'on peut en avoir, ou en tout cas c'est un peu le regard métronormatif, on va dire, qu'on peut avoir de la grande ville comme vous le dites très justement, un territoire où la vie en dehors de l'hétérosexualité serait possible et forcément plus épanouie qu'ailleurs. Mais en fait, en me penchant sur des travaux de géographes, de sociologues, et puis en écoutant la parole des concernés, j'ai remarqué que c'était quand même beaucoup plus nuancé que ça, et qu'il fallait quand même essayer de s'éloigner de cette binarité de la ruralité hostile et la ville forcément épanouissante. Déjà parce que ça conforte les personnes qui vivent en dehors des villes dans un isolement qui est forcément dangereux. On peut être queer et vivre de manière épanouie à la campagne.
Alors ça dépend des pays, évidemment. Mais
évidemment,
en tout cas,
ça dépend des pays.
Pour les pays européens où l'homosexualité n'est pas criminalisée.
Tout à fait, évidemment. Après, moi j'ai aussi interrogé un jeune homme qui me raconte qu'il a grandi dans une petite ville de Touraine et qui me dit moi, la grande ville, Paris, c'était la terre de rencontre. Et en fait, ça fait 10 ans qu'il est là et il me dit que la rencontre n'est pas arrivé.
Mais ceci dit, vous avez aussi rencontré des personnes homosexuelles qui vous disaient qu'une fois que le couple homosexuel était constitué grâce à l'anonymat de la grande ville, qu'on avait pu faire plein de rencontres, il y avait des hommes qui vous disaient qu'ils préféraient s'installer ensuite dans une petite ville pour faire durer leur couple.
Exactement.
C'est-à-dire, en gros, quand même, éloigner un peu les tentations, non?
Oui, il y avait effectivement ça aussi, cette idée d'aller en ville pour... pareil, parce qu'il y a plus de monde et donc de personnes avec qui on va pouvoir construire un couple, ou en tout cas s'engager. Et puis pour la pérennité de ce couple, en tout cas l'idée de ce jeune homme-là, c'était qu'il valait mieux partir de la tentation parisienne.
La tentation parisienne. Paris 2024, ça va être à fond les rencontres pour toute la planète, là, je sens, parce que déjà avec l'image romantique de Paris, non,
ouais,
en tout cas, c'est ce que Paris va vouloir vendre aussi.
Complètement.
Pour tous les touristes étrangers. Je vous lis le message de Didi, qui est à Cotonou, qui nous dit, c'est une femme, je ne suis pas adepte des applis, j'ai rencontré un de mes compagnons à Porto Novo dans un bar, mon petit ami actuel dans une boîte de nuit. C'est une chance parce que je pensais pas qu'on pouvait rencontrer quelqu'un de sérieux en boîte. Bah oui, il y a aussi des gens sérieux qui viennent pour s'amuser en boîte et pour danser. Et puis le résultat du sondage, ce matin on parlait d'amour, donc pour vous aimer en ville, c'était... Il y avait 4 réponses possibles. Et j'ai été étonnée, mais vous êtes majoritairement, vous avez répondu, finalement, c'est pas très différent de l'amour au village. Pourtant, Pauline Machado vous a expliqué que l'anonymat plus les applications de rencontres, ça fait quand même un cocktail assez détonnant pour faire des rencontres et constituer un couple. Merci en tout cas à vous, Pauline Machado. Ça s'appelle L'amour en ville, comment la ville impacte l'amour, full sentimental, votre livre. Merci à vous en tout cas d'être passé chez Emilia. Et c'est publié chez Les Pérégrines. Dans quelques instants, Le Monde des Enfants de Charlie Dupiot et une rencontre avec l'athlète paralympique sénégalais Edmond Sanka. Ce sera juste après la très jolie mélodie de Soufiane Stevens et son banjo chez 8 milliards de voisins. A tout de suite.
Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. Build your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, 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 it's me. The first time. From my
Donnons la parole aux enfants chez 8 milliards de voisins avec Le Monde des enfants de Charlie Dupiau et cette série spéciale à l'occasion des Jeux paralympiques. Des enfants interrogent des athlètes paralympiques. Et d'abord, Edmond Sanka, compétiteur sénégalais qui fait du paracanoë. Il a été sélectionné aux côtés de 25 autres athlètes du monde entier pour bénéficier d'une bourse olympique. Il s'entraîne en France depuis un an au sein du club de canoë-kayak ASL à Arras, dans le nord de la France. C'est là que plusieurs élèves de CM1, CM2 sont venus le rencontrer entre deux séances d'entraînement. Ces élèves de l'école primaire Langevin avaient évidemment beaucoup de questions pour l'athlète.
RFI. Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
Bonjour les enfants. Moi je m'appelle Edmond Sanka. Je suis international sénégalais. Je fais du kayak ici dans le club pour préparer les Jeux Olympiques, Paralympiques, pour gagner une médaille pour le Sénégal. Merci.
Comment vous vous êtes fait ça à la jambe si c'est pas trop indiscret?
Quand j'ai 20 ans, j'ai engagé dans l'armée. C'est là-bas qu'on m'a coupé ma jambe. C'est là-bas que je suis blessé dans l'armée. Le 4 décembre 2007, je suis monté à la garde dans une portail. Une véhicule de la Sénélec en train de passer une grille.
La Sénélec, c'est la compagnie nationale d'électricité?
Oui, du Sénégal, oui. C'est eux qui m'ont causé l'accident. Ils sont en train de passer dans le portail. C'est moi qui l'ai monté le jour-là à Sentinelle. C'est eux qui ont heurté les deux poteaux. Ils sont tombés dans mes jambes.
Les poteaux du portail?
Le pied droit est broyé. Le deuxième est cassé d'ouverture ouverte. Avec l'hôpital, on a coupé la jambe droite. On a récupéré l'autre, le pied gauche. C'est là-bas que j'ai perdu ma jambe. 6 mois dans une liste de l'hôpital. Quand j'ai sorti, on m'a dit qu'il y a un sport qui s'appelle le canoë-kayak. C'est là-bas que j'ai commencé à faire du kayak. En 2012, en 2013, j'ai gagné 2 médailles d'or à Tunisie. J'ai commencé à progresser jusqu'à maintenant.
Et là, avec la prothèse, vous pouvez être debout.
Oui, je pouvais être debout longtemps et marcher longue distance. Je peux courir maintenant. Avant, je suis engagé dans l'armée, je suis parachutiste. J'ai beaucoup travaillé pour le pays, le Sénégal. En même temps, je travaille pour le pays. Maintenant, ce n'est pas avec les armes, c'est avec mon pagaie et mon bateau pour gagner des médailles.
Il y a plein de questions là.
Est-ce que votre prothèse vous gêne dans votre vie?
Elle ne me gêne jamais, elle ne me gêne pas. Je marche, si je dors, je l'enlève, je dors. Si je me réveille, je mets mon prothèse, je marche comme tout le monde. Aller dans les marchés, dans les supermarchés, comme tout le monde. Aller promener avec mes enfants, avec mon véhicule, tout ça. Avec ces prothèses-là, j'ai fait tout.
Qu'est-ce qui vous a fait envie de faire du canoë?
Avant, je faisais des boxes, c'est un boxeur avant, mais quand j'ai blessé, j'ai arrêté le boxe. Mais un vieux m'a trouvé et m'a dit, Edmond, il y a un sport que tu pouvais faire, c'est le kayak. Ça me donne beaucoup de choses, ça m'a fait oublier tout, mon blessure, tout ça. Je pense plus à ma jambe, on a coupé ma jambe, machin. Je pense seulement à gagner. C'est la première fois que je qualifie pour les Paralympiques. C'est la première fois, Paris 2024.
Avez-vous un matériel spécial?
Si, ça c'est mon matériel personnel, ça c'est mon pagaie. Ça, c'est mon kayak. Quand je monte, j'appuie ici, j'enlève cette prothèse-là.
En fait, là, on voit que votre jambe, elle a été amputée au niveau du genou.
Du genou, en bas du genou, on l'a amputée là-bas.
Là, vous enlevez la prothèse, donc on voit.
Ça, c'est mon bateau. C'est une prothèse pour le bateau. On l'a fixée dans le bateau. prends mon pagaie, je navigue comme tout le monde, 200 mètres, 500 mètres ou 1000 mètres.
Sur le bateau, il y a le drapeau du Sénégal, il y a votre nom.
Il y a mon nom là-bas qui est là-bas, il y a mon drapeau du Sénégal aussi.
Vert, jaune, rouge.
Est-ce que c'est dur de pagayer au Sénégal?
C'est dur pour pagayer au Sénégal là-bas. Les bateaux qui sont là-bas ne sont pas bons, mais c'est là-bas que j'ai appris à faire du kayak, tout ça. C'est là-bas qu'on m'a appris avec les vieux kayaks. Les kayaks que j'ai pagayés là-bas au Sénégal, c'est les kayaks pour les valides, ce n'est pas pour les handicapés. C'est ici que m'ont donné mon bateau pour les handicapés, je commence à monter là-bas.
Et il faut qu'il soit plus large, donc plus stable.
Oui, plus stable, plus large, tout ça. C'est ici, on a trouvé le bateau, on m'a donné un bateau. C'est mon bateau maintenant, on a mis mon nom, Edmond, mon prothèse fixé dans le bateau, tout ça.
Ça vous fait quoi de vivre avec cet handicap?
Être fier de mon handicap d'abord, être fier de moi-même, être fier de ce que j'ai fait. Moi, j'ai trois enfants qui ont le même âge comme vous. Mais des fois, les gens parlent, ton papa est handicapé, machin, il vient, il pleure à la maison. Je dis, ça, ce n'est rien. Ça, c'est un handicap seulement. Moi, je marche comme tout le monde. Pendant les discothèques, je danse comme tout le monde. Je fais tout comme les autres. Un handicap, il est humain comme tout le monde. Tout le monde doit respecter les handicapés. Moi, je prends l'avion, je mets une short comme ça. Je viens, je prends mon avion.
Et vous dites que vous restez en short pour qu'on voit votre prothèse, en
ouais,
fait.
C'est pour le voir, je ne peux pas le cacher à personne. Je peux le regarder, on le voit. Des fois, je marche dans la rue, on dit, papa, regarde le gars, c'est le pied, c'est un pied de robot, machin. Il vient, il touche. Mes enfants aussi, quand ils sont petits, ils viennent, papa, pourquoi on a coupé ta jambe? Je dis, j'ai fait l'armée, il ne doit pas être complexé, tout ça. Mais les valides aussi, vous devez aider les handicapés. Parmi vous, il y a des copains qui sont handicapés, ils ont coupé leurs jambes, vous les ignorez tout le temps, c'est pas normal. Tout le temps, quand vous jouez avec eux, quand vous nagez avec eux, si vous mangez, vous partagez avec eux. À l'hôpital, j'ai vu beaucoup de gens, moi je suis blessé, mais eux, ils sont plus blessés que moi. On leur a coupé les deux jambes, les autres, les jambes sont paralysées, les autres, ils ne voient même pas. C'est très, très dur pour eux. C'est pour ça que j'ai fait du kayak, pour bosser pour ces gens-là, pour les aider. Les autres, ils veulent des cannes pour marcher. Les autres, ils veulent des saisons loin. Si je gagne une médaille d'or, je vais accepter pour leur donner cadeau.
Vous aimeriez, avec peut-être l'argent gagné aux Jeux Paralympiques?
Oui, pour partager avec eux. J'aide un peu les handicapés, mais je n'ai pas un peu de moyens financiers 100%. Ça manque beaucoup de choses. Mais si je gagne les médailles d'or, l'État va m'aider aussi. Je veux aider beaucoup les handicapés à acheter des cannes, des saisons loin d'ici, pour les donner un cadeau. C'est ça que je veux.
Ça, c'est le premier épisode de notre série spéciale du monde des enfants consacrée aux Jeux Paralympiques. Un grand merci à l'athlète sénégalais Edmond Sanka qu'on retrouvera demain pour un nouvel épisode. Les épreuves de paracanoë auxquelles il participe commencent ce vendredi 6 septembre. On lui souhaite bonne chance, bien sûr. Et merci aussi à Olivier Bell, à Angélique Ficheux et à toute l'équipe du club de canoë kayak pour leur accueil. À demain, les voisins.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.